Radio Grand Ciel présente D'art et d'histoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois Bernard Malcor qui évoque pour nous l'histoire de Saint-Denis de Mondoubleau. Bernard Malcor, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors pourquoi Mondoubleau ?
Parce que c'est l'église cœur du secteur paroissial nouveau de Drouet-Mondoubleau qui regroupe 25 paroisses. Et c'est là où je me fréquente l'église le plus souvent.
Votre église, souvent. Et alors Mondoubleau, situez-nous Mondoubleau parce que...
Mondoubleau est un chef-lieu de canton, pour l'instant, qui était une capitale du cheval percheron, parce qu'il y avait des marchés, tout à fait, vous hochez la tête, Christiane Blain, mais c'est quand même, on naissait à Mondoubleau, et on élevait plus haut dans le Perche.
Mortagne.
Voilà, oui. Voilà, mais on naissait à Mondoubleau, on faisait naître.
L'origine de
Mondoubleau a une origine tout à fait intéressante. Mondoubleau n'existait pas avant l'an 1000. Par contre, la commune d'à côté, qui s'appelle Choux, était une commune gallo-romaine qui a un vaste territoire, qui a toujours un vaste territoire aujourd'hui. Et cette commune gallo-romaine était à la frontière entre le pays chartrain, on va dire, et le Maine. Et le comte de Chartres, qui était en même temps comte de Blois, mais le comte de Chartres était en opposition avec le comte du Maine et on était à la frontière. Et le comte de Chartres demande à un de ses vassaux, Hugues, de construire une forteresse à la frontière. Et cet Hugues va chercher un lieu stratégique et il trouve ce qui va devenir Mondoubleau. Mais à l'époque, ça ne s'appelait pas Mondoubleau.
Et ça s'appelait ?
Ça s'appelait rien, ça s'appelait Choux. C'était un lieu perdu. Et quand on approfondit l'histoire de ce personnage, on se rend compte qu'il était à la fois vassal du comte de Chartres et vassal du comte du Maine. Quand un espion a deux employeurs, on le traite d'agent double.
Voilà.
Eh bien, Hugues a été reconnu comme vassal de deux seigneurs ennemis, en même temps qu'ils étaient beaux frères, mais deux seigneurs ennemis, donc on l'a appelé Hugues Doubleau.
Oui, ça c'est très intéressant comme origine d'un nom.
Alors je ne la raconte pas trop à Mondoubleau, parce qu'ils n'aiment pas trop avoir un seigneur qui a peut-être...
double.
Mais on peut dire que c'est une double vassalité, il n'a jamais trahi. Il n'a jamais trahi. Mais alors dans une autre explication, mais qui n'a rien à voir, qui était Mons du Bellus, Mont double, mais il n'y a pas de double.
Voilà. Alors, le patron de votre église, c'est Denis.
Oui.
Et comment le représente-t-on dans l'église ?
Ah bien, comme il est représenté, vous savez que Denis a été un saint qui a eu une notoriété extrêmement grande. Il était le premier évêque de Paris et il a souffert le martyr à Montmartre. Montmartre qui veut dire Mons Martyrium, le mont du martyr. Et compte tenu de sa renommée, le gouverneur de l'époque, c'était au IIIe siècle, a voulu le faire disparaître et, je vous fais la version courte, l'a décapité.
Ah oui, ça c'est la version courte.
Raccourci, on va dire. Et il est parti, mais avec sa tête, du Montmartre jusqu'à Saint-Denis, la basilique Saint-Denis d'aujourd'hui.
Quand même, c'était incroyable cette histoire.
Alors, on raconte que c'était pas arrivé que pour lui. C'était une manière de désigner l'endroit où il voulait être enseveli.
Ah oui.
Il partait avec sa tête et il la déposait là où il voulait être enseveli. Donc, Saint-Denis est représenté décoiffé, on va dire, portant sa tête. C'est ce qu'on appelle les saints céphalophores.
Oui,
il n'est pas le seul.
Alors, si vous le permettez, on va rentrer dans cette église. Alors, d'abord, le porche.
Alors, le porche est un porche 19e qui a remplacé un porche Renaissance. Et ce porche Renaissance avait une porte, double porte. on se posait la question, mais pourquoi deux portes? Et j'ai posé la question à plein de personnes et qui ne savaient pas répondre ou qui me répondaient de façon amusante. Par la porte de droite, on rentrait plein de péchés et on ressortait par la porte de gauche.
Voilà, pur, purifié.
Purifié. La porte de droite pour les moines, la porte de gauche pour les fidèles. Bon, en fait, c'est qu'une question de vocabulaire architectural propre à la Renaissance. Beaucoup d'autres églises ont cette double porte séparée par un trumeau voilà, qui faisait de... Mais c'était une question d'architecture, vocabulaire d'architecture de l'époque Renaissance. Mais alors, ça a disparu. Ne reste de ce portail Renaissance que les trois marches d'entrée qui sont en roussard et pas du tout...
Alors, pour nos amis qui ne connaîtraient pas le roussard, expliquez-nous.
Le roussard est... du sable qui a été aggloméré il y a des millions d'années et qui est devenu dur comme de la pierre. Comme du granit. Sauf que ce sable avait des oxydes de fer qui ont rouillé et qui ont donné la couleur rousse à ce sable. On le retrouve aussi sous une forme de grison avec des inclusions de silex.
Oui. Alors, dans le Perche, il y a beaucoup de maisons, beaucoup de manoirs sont en pierre de roussard.
De roussard, qui est plus facile à sculpter que le grison. Voilà. Mais donc, j'ai trois marches de roussard qui sont pas du tout de la même couleur et de la même forme que les soubassements du nouveau clocher. Et ce qui est amusant, c'est que ces trois marches étaient pour un porche plus petit, moins large. Donc, ils ont conservé les trois marches, mais ils les ont allongées avec du ciment.
Ah oui, d'accord.
Au 19e. C'est comme ça qu'on peut se rendre compte que c'est les porches des Russes.
Alors, rentrons dans l'église.
Cette église, elle a le plan assez classique d'une nef qui se termine par un chœur avec deux chapelles collatérales, une à droite, une à gauche. On va d'abord donc parler de ce qu'on peut voir dans la nef.
La nef elle-même.
La nef a une particularité. Pas isolée, mais de sept travées. Elle a sept travées. Vous savez, une travée, c'est ce qui se passe, c'est l'espace entre deux entrées. Les entrées, c'est ces poutres horizontales que vous voyez dans les voûtes qui sont classiques chez nous en lambris. Sept travées qui symbolisent les sept sacrements de l'Église catholique. Et au fur et à mesure que vous avancez dans l'Église, ça traduit votre progression dans la pratique de ces sacrements, commencer par le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, jusqu'à l'extrême onction que vous touchez au fond.
Et la largeur?
Elle a une largeur qui est plus grande que la largeur normale. Vous savez que pour faire ces fameuses entrées dont je parlais, pour avoir une section qui soit suffisamment importante pour être solide, il fallait que l'arbre dépasse 30 mètres. Ce qui permettait d'avoir des entrées de 9 mètres. Là, on a une largeur de 11 mètres.
Ah oui,
Donc, vous voyez, il fallait grands arbres.
Oui, c'est ça.
Magnifique.
Mais il y a beaucoup de forêts.
Il y a beaucoup de forêts. Mais regardez bien, dans beaucoup de salles de châteaux de cette époque-là, c'est des salles de 9 mètres de large. Vous trouvez beaucoup d'églises qui ont 9 mètres en dessous. Très rares, plus rares sont les églises qui ont des largeurs de 11 et plus.
Oui, parce que là, il fallait vraiment des arbres gigantesques.
Du coup, on a remplacé ça par des voûtes après.
Oui, bien sûr. Alors, donc, beaucoup de symboles dans tout cela. Et j'en arrive à Sainte-Thérèse d'Avila.
Oui.
Alors ça, c'est quand même assez particulier parce que c'est un vitrail que j'aime beaucoup d'ailleurs.
Oui.
Décrivez-le.
Alors, ce vitrail de Sainte-Thérèse, c'est un vitrail du 19e, que représente Sainte-Thérèse en habit de carmélite, déchaussée, parce que vous savez que c'est elle qui a réformé l'ordre du Carmel, et qui est devenue les carmélites déchaussées.
Oui, c'est ça.
Et elle est pieds nus. Et elle tient dans sa main droite une petite statue que j'ai pu reconnaître, c'est un personnage masculin, et qui tient un bâton fleuri. Connaissez-vous Alors, c'est moi qui pose la question.
Et oui, je vois. Mais je vais vous répondre non, je ne connais pas.
Le bâton fleuri est la tribu de Saint-Joseph. Quand Marie, qui avait 14 ans, en a voulu le fiancer, tout un tas de prétendants se sont présentés. Oui. Lequel choisir qu'il soit l'élu de Dieu? On a reproduit la même chose que lorsque Moïse a voulu un grand prêtre dans le désert. Mmh. Il a donné à chaque représentant des 12 tribus d'Israël un bâton. Ils se sont retirés en prière. Et le lendemain matin, un seul avait fleuri, c'était celui d'Aaron. Ah oui. Eh bien, c'est passé la même chose pour Joseph. Mmh. Le seul bâton qui avait fleuri, c'était celui de Saint-Joseph. Et c'est lui qui a été retenu comme prétendant pour Marie. Et vous le retrouverez systématiquement représenté avec son bâton fleuri.
Oui, alors ça, c'est dans la nef.
Alors, dans la nef, vous avez ce vitrail avec cette petite statue de Saint-Joseph pour laquelle, Saint-Joseph, pour laquelle Sainte Thérèse d'Avila avait une dévotion toute particulière.
Oui. Alors, le vitrail du fond de la nef est aussi très intéressant.
Oui, parce que accolé à cette fenêtre, c'est une seule fenêtre avec oui. une lancette, accolé à cette double lancette, il y a un autre carmélite. Et il est inscrit « Beata Ludovica ». Et il n'y a pas de carmélite bienheureuse, Beata comme bienheureuse, il n'y a pas de carmélite bienheureuse qui s'appelle Louise.
Alors ?
Alors, c'est là où
oui.
je fais, pas le juge d'instruction, mais l'historien d'investigation
bien sûr.
S'est révélé.
Ce que vous êtes.
Voilà. Et finalement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour tout raconter, oui. il s'avère que ce serait Louise de France, le dixième enfant de Louis XV, que celui-ci a envoyé à 11 mois à l'abbaye de Fontevraud avec trois de ses sœurs. Elle est restée 13 ans à l'abbaye de Fontevraud, éduquée par les religieuses, et sans voir ses parents. Elle est revenue à la cour au bout de 13 ans. Elle avait été suffisamment éduquée pour déjà sentir une vocation. Oui. Elle est restée 18 ans à la cour pour remplir son devoir d'état de princesse royale. Et au bout de 18 ans de cour, à 33 ans, elle a demandé à Louis XV l'autorisation de devenir carmélite. Mmh. Elle a choisi un carmel, un des plus pauvres, le carmel de Saint-Denis, justement. Mmh. On est dans l'église Saint-Denis. Le carmel de Saint-Denis, où elle était prieure, trois fois élue prieure de Saint-Denis. Et pendant son passage à la cour, elle a écrit un ouvrage religieux qui s'appelle « Les méditations eucharistiques ».
Oui.
Et quand elle est venue rentrer au carmel de Saint-Denis, on l'a donné en charge des novices. Et elle a écrit un autre ouvrage qui s'appelle « Le testament religieux ». Pourquoi je cite ces deux livres? Parce qu'elle est cette sainte, Beata Ludovica, est représentée avec dans la main un ouvrage et dans l'autre main une plume.
Ah oui, donc elle écrit.
Et dans la mouchette du haut de... La mouchette, c'est les festonnages du haut du vitraux du Renaissance, pseudo-Renaissance, il y a une fleur de lys.
Ah oui, donc, mais bien sûr.
Donc, j'en ai déduit que... Alors, pourquoi Beata et non pas... Elle était vénérable, elle était déclarée vénérable, pas encore bienheureuse, mais parce que j'ai pensé que le peintre Verrier, n'avait pas la place de marquer vénérable.
Ah oui,
Et ça leur arrive plus d'un coup, plus d'une fois, on ne dira plus d'une fois, de faire des accommodements, et ils ont mis Beata au lieu de vénérable. Il aurait pu mettre sainte, mais elle n'était pas encore sainte. Et Saint Jean-Paul II, a lancé le processus de canonisation en déclarant sa pratique héroïque des vertus chrétiennes. C'est la première étape.
Oh, c'est très intéressant. Alors, vous avez beaucoup travaillé pour trouver toute cette histoire qui est fort intéressante. Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale.
La tâche originelle est de s'embêter.
suis toujours avec Bernard Malcor et nous visitons l'église de Saint-Denis de Mondoubleau. Dans une première partie, il a expliqué d'abord ce que signifiait Mondoubleau et puis nous arrivons maintenant dans la moitié, si je puis dire, de l'église, puisque nous allons arriver à la chapelle Saint-Joseph, qui était d'ailleurs l'ex-chapelle Saint-Michel, Saint-Michel et Sainte-Barbe. Alors, ce serait bien que vous nous expliquiez un peu ce que vous pouvez nous dire sur cette chapelle Saint-Michel et Sainte-Barbe.
Eh bien, en 1649, le procureur fiscal de Mondoubleau, qui s'appelait Michel, dont la femme s'appelait Barbe, a voulu se faire pardonner peut-être les exactions fiscales contre la population, et il a fondé une chapelle qu'il a dédiée à ses saints patrons, Michel et Barbe. Ce fut le début. Et il a commandé un tableau pour mettre dans le rétable à un peintre régional qui s'appelle Janvier et qui a peint une descente de croix en tableau de rétable, qui aujourd'hui se trouve au fond de la chapelle. Parce que au 19e, cette chapelle a été débaptisée et rebaptisée Saint-Joseph.
Ah oui.
De ce fait, l'hôtel qui avait ce rétable et ce tableau de Janvier est devenu un hôtel 19e, et le rétable a disparu, et c'est une fenêtre avec un vitrail qui décrit la vie de Saint-Joseph qui est présentée. Oui. Les épisodes de cette vie, c'est le mariage de Joseph,
oui,
la naissance, la nativité, et la fuite en Égypte. Et Joseph a eu beaucoup de succès au 19e parce qu'on lui a trouvé une sorte de rôle de protecteur de la famille.
Oui.
Grand modeste, on parle peu de lui, mais voyez, c'est lui qui conduit Marie et le Christ en exil, nos premiers réfugiés, immigrés.
On peut dire ça. Et alors justement, les vitraux de cette chapelle, comment...
Alors, la suite des vitraux,
oui,
on retrouve un autre vitrail qui représente Marie filant la quenouille, Joseph à son atelier et le petit enfant Jésus qui scie une planche de bois pour venir...
Oui, il faut pas oublier que son père était
charpentier.
Voilà. Bien sûr. Voilà.
Et alors, je faisais visiter cette église à des enfants à qui je demandais quels étaient dans cette église l'image qui les frappait le plus. Et il y a une petite fille qui me dit, c'est celle-là parce que... Alors, on l'a un peu aidée. Elle marque la double nature du Christ.
Oh là là! Il y a des vocations à Mondoubleau.
Je dirais que ma vocation à moi, c'est de faire en sorte d'utiliser les églises comme un livre d'images du catéchisme et de la Bible.
Oui, il n'y a pas mieux.
Formidable.
Oui. Ça, c'est sûr que pour eux, ils s'en souviendront toute leur vie. En plus, c'est une très belle église. Alors, j'en arrive à la chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur de la Vierge. Un architecte très connu, je crois.
Alors, c'est un architecte qui était un prêtre et qui a officié dans le diocèse de Tours et il a beaucoup travaillé dans toute la région, qui, en 1873, a élaboré les plans de cette chapelle après avoir d'ailleurs refait complètement le chevet et le cœur de l'église de Mondoubleau. Et cette chapelle, j'ai pu me rendre compte que c'était pas la chapelle de la Vierge, c'était la chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur de la Vierge.
Et comment vous êtes rendu compte ?
Par les plaques votives qui étaient
bloquées
contre le mur que plus personne ne regarde aujourd'hui. À chaque fois, à Notre-Dame du Sacré-Cœur, à Notre-Dame du Sacré-Cœur. J'en ai déduit que c'était...
Bien sûr.
Parce que une autre fois, je vous raconterai pourquoi les chapelles de gauche dans les églises sont systématiquement consacrées à la Vierge en réalisation d'un vœu de Louis XIII.
Alors, il faut nous en dire plus maintenant.
Non, parce que ce n'est pas le cas ici.
Oui, mais quand même, dites-nous maintenant. On est intéressés. Alors, chapelle de gauche.
Chapelle de gauche, c'est dans une église, la gauche qui est la droite du Christ.
Oui.
Et le côté plus vénérable que l'autre côté. La gauche, c'était là où, ce qu'on appelle le côté évangile.
Oui, c'est vrai.
L'autre côté, c'est le côté épître. L'évangile, c'est quand même la parole de Dieu plus proche que l'épître. Donc, et pourquoi la droite du Christ? Parce que la Christ sur la croix a eu le côté droit transpercé par une lance. Et de ce côté droit a coulé le sang et l'eau qui nous sauvent.
Oui.
Quand Louis XIII était devant Arras, il siégeait Arras, il voulait absolument, en 1637, il voulait absolument gagner cette bataille qui était importante pour l'avenir de son royaume. Il a fait un vœu. Il a dit, si je gagne, je consacre la France à Marie. En 1638, il a gagné. En 1638, il a demandé à tous les évêques de faire en sorte que dans chaque église soit consacrée la chapelle principale à la Vierge. Si bien que vous verrez quasiment
toujours.
Systématiquement.
Ah oui.
D'un autre côté, Anne d'Autriche, qui n'avait pas d'enfant depuis 23 ans, avait fait aussi un vœu. Il s'avère qu'en 1638, Louis XIV naît aussi.
Oui.
Mais ce n'est pas à cause de ça qu'il y a nos chapelles, alors que maintenant, on raconte souvent que c'est à cause de ça. Anne d'Autriche, son vœu, c'était la restauration du Val-de-Grâce.
Mais ce qui fut dit, fut fait. Très intéressant. Alors, maintenant, je reviens à mon doubleau. Donc, nous poursuivons notre visite. Alors, ensuite, j'en arrive à cette niche retable qui est intéressante.
Alors, ça a été construit, donc c'est très 19e. C'est une alvéole.
Oui.
Dans laquelle il y a une statue de la Vierge qui tient l'enfant Jésus devant elle, tout en or, et qui montre son cœur. Et Jésus, lui aussi, montre son cœur. À la limite, c'était à l'époque où il y avait simultanément la dévotion au Sacré-Cœur de Marie et la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Donc c'est un rétable qui est d'une niche, une grande niche, comme une chapelle à l'intérieur de la chapelle, dans laquelle on voit ces statues.
Alors, il y a aussi un devant d'autel.
Qui rappelle l'Assomption de la Vierge.
Oui.
On voit que la Vierge qui s'élève, et elle est entourée de... C'est un autel 19e. Il est entouré de deux symboles de la Vierge, une étoile, l'étoile qui nous guide, la mer, et de l'autre côté, la tour de David, qui est un des X symboles de la Vierge. Voilà. Mais à côté, ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'on a appendu un tableau qui était dans le fond de l'église, qui est une copie d'un tableau de Murillo, qui a été copié par une dame qui était originaire de la région, dont le beau-père était avocat à Mondoubleau et qui habitait Soudet, qui est une commune qui est à 10 km de Mondoubleau. Donc c'est Madame Pourmarin qui a fait cette copie de Murillo et qui l'a offert à l'église de Mondoubleau et qu'on vient de restaurer.
Oui. Vous la connaissez vraiment bien, cette église.
Faut-il que je reste modeste ou...
Non, mais combien de temps vous avez travaillé pour
Mon hobby,
Oui.
Ma passion, c'était la région du Perche.
Oui.
Et au départ, j'étais extrêmement éclectique, tout m'intéressait. La guerre de 70, les protestants à Autun,
oui.
Henri IV qui passe dans chez nous.
Vous avez fait une conférence sur les protestants à Autun.
Et je me suis maintenant focalisé la théorie de l'entonnoir. Au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, vous cherchez à prendre les choses essentielles.
L'église.
Et maintenant, c'est les églises.
Alors, j'en arrive maintenant à l'hôtel majeur.
À l'hôtel majeur, qui lui aussi est un hôtel 19e dans une restauration complète du chevet. Et cet hôtel est classique 19e, avec sur le gradin, vous avez les quatre évangélistes qui se terminent par Saint-Pierre, Saint-Paul. Bon, le repas d'Emmaüs, qui est le devant d'hôtel, Et une scène qui me touche énormément, qui est Jésus au Mont des Oliviers, et qui est au moment où il demande à son Père de lui éviter cette passion, mais il conclut en disant « que ta volonté soit faite ». Il aurait très bien pu dire « bon ben basta, je remonte au ciel, tant pis pour les autres ». Et non, il a été jusqu'au bout de sa liberté d'accepter. Et puis de l'autre côté, il y a une autre scène où c'est Simon de Cyrène qui aide Jésus à porter sa croix. Vous savez que c'était le privilège des esclaves de porter leur croix pour être crucifié. Ouais. Donc Jésus était traité comme un esclave. Et puis, grâce à Simon de Cyrène, il a pu porter sa croix. Voilà. Ces hôtels 19e sont absolument passionnants.
Mais oui. Il y a beaucoup de choses à dire.
Beaucoup de choses à dire et qu'on escamote systématiquement parce qu'ils sont 19e.
Oui, ça c'est vrai qu'en ce moment, enfin le 19e est assez rejeté.
Mais était rejeté.
Oui,
on commence. Et devient de moins en moins rejeté.
Oui, il faut dire qu'on est au 21e siècle.
Voilà, voilà.
Alors, les vitraux du chevet sont aussi très intéressants. Il y a un Saint Thomas qui me plaît beaucoup.
Alors, Saint Thomas, vous connaissez tous l'histoire de Saint Thomas. Bon, on voit Saint Thomas qui touche cette plaie du Christ de son côté droit.
Oui.
D'où s'écoule le sang. Et il est entouré. Alors, vous savez que c'est à ce moment-là, quand il a tout mis le doigt dans la plaie, qu'il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ce que on dit au cours des cérémonies eucharistiques, on le dit peut-être moins maintenant, mais après la consécration du pain et la consécration du vin, la foule disait « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est la reconnaissance dans une expression de foi totale. D'accord, je te croyais pas, maintenant c'est toi. Et il est entouré de 4 médaillons de saints. Alors c'était ça qu'il fallait interpréter. Et il y a Sainte Gertrude, il y a Saint Augustin, il y a Saint Bernard et Saint Bonaventure.
Et Saint Bernard, comment est-il ?
Beau.
On n'en doutait pas.
Il est en moine, en abbé. Voilà. Mais tous, ils ont ce qui les lie entre eux, c'est l'expression à un moment ou à un autre de leur vie, de leur foi, tout comme Saint Thomas. Mais de l'autre côté, il y a Sainte Marguerite Maria Lacocque.
Oui.
Là, on va aller très vite. Je dirais juste que c'est la tante de ma femme. Mais elle est entourée, elle aussi. C'est Sainte Marguerite Maria Lacocque, celle qui a la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus.
Oui.
Et cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus a repris après la guerre de 70, en 1870. Et c'est de ça qu'est née la basilique de Montmartre. C'est en 1873 que l'Assemblée nationale a décidé de créer une basilique pour le Sacré-Cœur de Jésus. Formidable. Et là, on a le vitrail qui présente Sainte Marguerite Marie avec une vision du Sacré-Cœur de Jésus. Elle est entourée, elle aussi, par 4 saints, mais comme le temps presse, je parlerai juste du 4e, Jean Eudes. J'ai longtemps cru que Jean Eudes, c'était Jean trait d'union Eudes. Eudes, c'est en fait son nom de famille.
Ah oui.
Deuxième chose, c'est le seul à avoir un nimbe noir alors que tous les autres ont un nimbe doré. C'est que quand on a fait le vitrail, il n'était pas encore béatifié.
Ah voilà.
Ça venait, mais ce n'était pas là.
Eh bien, un grand merci Bernard Malcor. Je crois que nous aurons tous à cœur d'aller visiter cette belle église Saint-Denis de Mont-Doubleau. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiocranciel.fr. Merci Bernard Malcor.
Merci Christiane Blain.